Management.
Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Radio Classique, il est 8h. Bienvenue à tous.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
L'opposition classique, celle évidemment des Républicains, essaye de renaître et du coup ils veulent des chiffres dans cette affaire des retraites. Nous recevrons tout à l'heure, donc vous le savez, Éric Woerth qui est président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Premier titre du journal de 8h, la victoire pour les éleveurs pyrénéens. L'ours ne sera plus une menace. Emmanuel Macron s'oppose à leur réintroduction. Les 500 millions d'euros débloqués pour les enseignants suffiront-ils pour calmer leur colère? Pas sûr. Les syndicats restent sur la défensive pour l'instant. Enfin, l'Open d'Australie, nous l'évoquions tout à l'heure, sera-t-il maintenu? Le pays brûle et les joueurs suffoquent. Il fera plus de 30 degrés aujourd'hui pour les qualifications et l'entraînement. Mon cher Guillaume Tabar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comme Flaubert, vous écrivez, mais quel est le sujet?
Eh bien, Ségolène Royal. Ségolène Royal limogée, mais Ségolène Royal libérée.
Radio Classique.
Les éleveurs pyrénéens, ma chère Sophie, peuvent avoir le sourire ce matin.
Oui, il n'y aura plus de réintroduction d'ours dans le massif. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron hier en déplacement à Pau. Le président de la République a reçu les présidents des chambres d'agriculture d'Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Sophie.
Il faut dire que les éleveurs sont en colère. Rien que l'été dernier, 1500 bêtes ont été tuées par l'ours.
Oui, dont plus de 1000 dans le seul département de l'Ariège. Exaspération donc des éleveurs qui parlent pour certains de massacres. Ils avaient même menacé de bloquer le Tour de France en juillet dernier avec leurs brebis. Ils sont aujourd'hui satisfaits et rassurés. Outre l'arrêt des réintroductions d'ours, le chef de l'État promet un suivi régulier des ours à problème et la possibilité d'extraire les plus agressifs. Des annonces désespérantes jugent de leur côté les écologistes, comme pour le militant et président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg.
Vraiment navrant pour ne pas dire davantage, et on constate que dès qu'il y a un problème, alors là on s'exonère de nos responsabilités, car je souligne que la France a obligation par ses engagements européens à maintenir et à conserver des populations d'ours dans les Pyrénées.
La restauration d'une population d'ours viable passera par de nouveaux lâchers. Selon les pro-ours, il y aurait aujourd'hui une cinquantaine d'ours bruns dans les Pyrénées.
Merci Baptiste Gabory. Et lors de son déplacement à Pau hier, Emmanuel Macron en a profité pour recadrer les violences policières. Le chef de l'État demande au gouvernement des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, alors que celles-ci sont accusées de nouvelles violences au cours des récentes manifestations. Des déclarations qui agacent les syndicats. On est à bout, exténué, on ne peut pas faire preuve de résilience à l'infini, réagit Thomas Toussaint de l'UNSA Police.
Mission d'ambassadrice d'épaule, on va en parler avec Guillaume Tabar, terminée pour Ségolène Royal. Le pouvoir n'en peut plus de ses déclarations.
Elle occupait cette fonction depuis septembre 2017. L'ancienne ministre a reçu une lettre du Quai d'Orsay qui la somme de taire ses critiques récurrentes contre le gouvernement. Ségolène Royal se dit déjà licenciée sans entretien préalable. Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites et les négociations se poursuivent. Le monde de l'éducation reste très mobilisé. Alors que Jean-Michel Blanquer a annoncé débloquer 500 millions d'euros pour calmer la grogne des enseignants et augmenter leur salaire à partir de janvier prochain, reste à savoir comment ces revalorisations vont se traduire concrètement. Les syndicats restent donc méfiants, car une augmentation salariale, ça ne résout pas tout. Rémi Pfister.
Jean-Michel est conseiller principal d'éducation dans un collège du Val-de-Marne depuis 15 ans. Et bien plus que l'augmentation de salaire, pour lui, la vraie urgence, c'est le recrutement de personnel.
On a zéro création de poste depuis 2 ans. Honnêtement, si on veut suffisamment de CPE en France, il faut en recruter 8000. On a des établissements qui sont sinistrés en termes d'assistantes sociales, d'infirmières scolaires. C'est une catastrophe.
Des classes bien trop nombreuses et le sentiment que les acteurs de terrain ne sont pas entendus. C'est ce que ressent Béatrice, professeure d'allemand dans un collège parisien.
Ils ne nous écoutent pas en langue. On sait qu'on a besoin de petits groupes pour faire progresser les élèves, pour leur permettre de prendre la parole plus facilement en cours. On aurait besoin de 15-20 élèves par classe, pas plus. Et ça, ils ne nous les donnent pas.
Virginie est accompagnante d'élèves en situation de handicap dans les lycées. Un poste essentiel pour les élèves en grande difficulté. Elle se sent pourtant méprisée par l'éducation nationale.
Le ministre de l'éducation s'adresse toujours aux enseignants, comme s'il faisait abstraction du fait que les enseignants ne travaillent pas seuls. Il y a aussi des contractuels parmi le personnel. On n'a déjà pas 1000 euros de salaire déjà. Donc à la retraite, on n'aura carrément rien. Donc il faut quand même qu'ils nous considèrent, quoi, dans ces discours, qu'ils tiennent compte de notre réalité.
Dès demain, les syndicats de l'éducation ont appelé à une grande journée de mobilisation.
Rémi Pfister.
La mobilisation, Sophie, se poursuit donc. 42e jour de grève, mais ça va beaucoup mieux dans les transports.
À Paris, de nouvelles améliorations sur les lignes de métro et de RER. Toutes sont ouvertes, mais avec un service perturbé, des stations fermées. À la SNCF, comptez 8 TGV et 8 TER sur 10, la moitié des intercités en moyenne. Depuis quelques jours, la compagnie ferroviaire brade ses billets de TGV ou de Ouigo, 500 000 titres de transport à moins de 40 euros. Attention, ces billets ne sont valables que jusqu'à lundi prochain. L'objectif, Céline Cajoulis, c'est de redonner aux usagers l'envie de prendre le train.
Avec cette promotion flash, la SNCF veut reconquérir ses clients qui, depuis le 5 décembre, ne prennent plus le train. Mais pour Arnaud Deblove de Que Choisir, c'est juste une opération de communication.
La SNCF a besoin de redorer son blason, de faire revenir petit à petit des clients qui sont partis, qui ont utilisé d'autres modes de transport comme le covoiturage ou le car. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des opérations aussi importantes en termes de vente de billets à prix cassé, je mets à prix cassé entre guillemets parce qu'ils sont quand même pas très très faciles à trouver.
La SNCF veut aussi limiter l'impact financier de la grève qui lui a déjà coûté 840 millions d'euros. Alors la priorité, selon Marc Fressoz, spécialiste de la SNCF, c'est de remplir les caisses par tous les moyens.
La SNCF a besoin de sauver son année. Chaque journée de grève a coûté 20 millions d'euros. Là, elle joue des périodes importantes qui sont les périodes de vacances, février. Ensuite, il y a les ponts de mai. Donc, c'est déjà revenir à un chiffre d'affaires normal et éventuellement, avec un surcroît de voyageurs, réussir à couvrir une partie du déficit lié aux grèves.
D'ailleurs, le nouveau PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a déjà prévenu qu'avec cette grève, il sera plus difficile d'atteindre l'équilibre financier imposé par le gouvernement. Pour 2022.
Les précisions de Céline Cajoulis. Les blocages se poursuivent dans les grands ports maritimes aujourd'hui. Depuis hier, la CGT a lancé l'opération Port Mort au Havre, Dunkerque ou encore Marseille. Les salariés sont appelés à cesser le travail jusqu'à vendredi. Et puis à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, c'est l'incinérateur qui est bloqué par les grévistes depuis hier. Il collecte et traite les déchets d'1,5 million d'habitants.
Et voilà, c'est la révolution dans le domaine de la pharmacie et pour tous ceux, évidemment, qui achètent des médicaments un petit peu n'importe comment ou parce qu'ils sont tout simplement dans la crainte de maladie. À partir d'aujourd'hui, le paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène sont désormais remisés derrière le comptoir des pharmaciens.
L'objectif est de lutter contre les mauvais usages et les cas de surdosage. Ces médicaments seront toujours vendus sans ordonnance, mais il faudra désormais les demander à votre pharmacien. Votre pharmacien qui est également obligé de vous proposer en priorité des médicaments génériques. Autre mesure en vigueur depuis le 1er janvier. Désormais, si vous tenez absolument à acheter le médicament d'origine, généralement plus cher, vous devez payez vous-même la différence, elle n'est plus remboursée. Forcément, cela n'enchante pas tous les patients. Reportage de Mélina Fachin dans une pharmacie du 8e arrondissement de Paris. Depuis deux semaines et l'entrée en vigueur de cette mesure, Serge Lévy, pharmacien, est obligé de proposer systématiquement des génériques à ses patients.
J'ai la crème en générique.
Non, je ne l'apporte pas moi.
Mais beaucoup, comme Antoine, un commerçant du quartier, refusent d'en entendre parler.
Non, surtout ce qui est médicaments enrobés ou avec des excipients, il y a des allergies, voilà. C'est comme si on achetait, moi je suis dans la chaussure, vous avez deux hautes gammes, puis vous avez des chaussures avec des semelles en plastique. Ça pas le même confort et ça n'a pas le même usage.
Antoine accepte donc de payer quelques euros en plus pour repartir avec son médicament d'origine. Comme lui, beaucoup de patients sont toujours très méfiants concernant les génériques, en moyenne 30 à 40% moins cher. Et cette nouvelle mesure n'arrange pas les affaires de Serge Lévy.
C'est compliqué à gérer parce qu'on a des stocks d'originaux et il va falloir aussi les écouler. Et puis, il y a cette partie qui n'est même plus, je vous dis, de la pédagogie. C'est pratiquement de l'affrontement avec les gens qui vont exiger leurs médicaments originaux.
La sécurité sociale espère tout de même finir par convaincre les Français de passer au générique et réaliser ainsi près de 100 millions d'euros d'économies par an.
Voilà, merci beaucoup. Test à vous.
Reportage signé Mélina Fachin.
On parle de tennis.
Où se pose la question du maintien de l'Open d'Australie à Melbourne. Les matchs de qualification ont pu reprendre cette nuit après une interruption d'une heure à cause des fumées. Les feux de forêt qui ravagent le sud-est du pays jouent les troubles faits depuis le début du tournoi. Certains suffoquent et déclarent forfait. Bonjour Charles Bonner.
Bonjour Sophie.
La grogne commence à s'installer chez les joueurs.
Oui, des quintes de tout en plein match. La Slovène Dalilou Jakupović, contrainte hier de déclarer forfait à la sortie, elle pointe du doigt l'organisation. Si nous n'allons pas sur le terrain, nous pouvons recevoir une amende. Autre autre critique, cette fois-ci du Britannique Liam Brody, la différence de traitement entre ceux qui doivent jouer les qualifications quand les stars, elles, sont appelées à ne prendre aucun risque pendant les entraînements. Un paradoxe d'autant plus que les autorités conseillent aux habitants de rester chez eux, portes et fenêtres fermées, alors que les joueurs, eux, étaient sur les courts. Les organisateurs, eux, se défendent, ils expliquent suivre les conseils d'experts médicaux, mais avec la fumée qui recouvre la ville et les 34 degrés attendus aujourd'hui, difficile de croire que les conditions seront meilleures.
Merci Charles Bonner.
Voilà, l'Open d'Australie qui a toujours été le tournoi le plus dangereux de l'année, puisqu'il arrive parfois, avant qu'on ne mette un toit sur le central, que des matchs se soient déroulés par 45 degrés. Henri Lecomte, notamment, parmi les Français et parmi ceux qui ont parfois eu des grandes difficultés et ont arrêté des rencontres importantes en subissant des malaises extraordinairement spectaculaires. 8h10, ma chère Sophie, merci, on se retrouve à 9h. Voici qu'entre en scène la politique avec Guillaume Tabar et donc le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, Éric.